Voltaire, lettre 21, sur le comte de Rochester et Monsieur Valère. Tout le monde connaît de réputation le comte de Rochester. Monsieur de Saint-Évremond en a beaucoup parlé, mais il ne nous a fait connaître du fameux Rochester que l'homme de plaisir, l'homme à bonne fortune. Je voudrais faire connaître en lui l'homme de génie et le grand poète. Entre autres ouvrages qui brillaient de cette imagination ardente qui n'appartenait qu'à lui, il a fait quelques satires sur les mêmes sujets que notre célèbre Despréau avait choisi. Je ne sais rien de plus utile pour superfectionner le goût que la comparaison des grands génies qui se sont exercés sur les mêmes matières. Voici comme M. Despréau parle contre la raison humaine dans sa satire sur l'homme. Je cite « Cependant, à le voir, plein de vapeurs légères, soi-même se bercer de ses propres chimères, lui seul de la nature est la base et l'appui, et le dixième ciel ne tourne que pour lui. De tous les animaux, il est ici le maître. Qui pourrait le nier ? Poursuis-tu. Moi peut-être, ce maître prétendu qui leur donne des lois, ce roi des animaux, combien a-t-il de rois ? Voici à peu près comme s'exprime le comte de Rochester dans sa satire sur l'homme. Mais il faut que le lecteur se ressouvienne toujours que ce sont ici des traductions libres de poètes anglais et que la gêne de notre versification et les bienséances délicates de notre langue ne peuvent donner l'équivalent de la licence impétueuse du style anglais. Je cite de nouveau. Cet esprit que je hais, cet esprit plein d'erreurs, ce n'est pas ma raison, c'est la tienne, docteur. C'est ta raison frivole, inquiète, orgueilleuse des sages animaux rivales dédaigneuses, qui croient entre eux et l'ange occuper le milieu, et pense être ici-bas l'image de son Dieu. Vil atome importun qui croit, doute, dispute, rampe, s'élève, tombe et nie encore sa chute. Qui nous dit « je suis libre » en nous montrant ses fers, et dont l'œil trouble et faux croit percer l'univers. Allez, révérend fou, bienheureux fanatique, compilez bien l'amas de vos riens scolastiques. Père de visions et d'énigmes sacrées, auteur du labyrinthe où vous vous égarez, allez obscurément éclaircir vos mystères, et courez dans l'école adorer vos chimères. Il est d'autres erreurs, il est de ces dévots condamnés par eux-mêmes à l'ennui du repos. Ce mystique encloîtré, fier de son indolence, tranquille au son de Dieu, qui peut-il faire ? Il pense. Non, tu ne penses point, misérable, tu dors, inutile à la terre et mis au rang des morts. Ton esprit énervé croupit dans la mollesse. Réveille-toi, sois homme, et sors de ton ivresse. L'homme est né pour agir, et tu prétends penser. Que ces idées soient vraies ou fausses, il est toujours certain qu'elles sont exprimées avec une énergie qui fait le poète. Je me garderai bien d'examiner la chose en philosophe et de quitter ici le pinceau pour le compas. Mon unique but dans cette lettre est de faire connaître le génie des poètes anglais, et je vais continuer sur ce ton. On a beaucoup entendu parler du célèbre Valère en France. Messieurs de La Fontaine, Saint-Évremond et Belle ont fait son éloge, mais on ne connaît de lui que son nom. Il eut à peu près à Londres la même réputation que Voiture eut à Paris, et je crois qu'il la méritait mieux. Voiture vint en un temps où l'on sortait de la barbarie et où l'on était encore dans l'ignorance. On voulait avoir de l'esprit et on n'en avait pas encore. On cherchait des tours au lieu de penser. Les faux brillants se trouvent plus aisément que les pierres précieuses. Voiture, né avec un génie frivole et facile, fut le premier qui brilla dans cette aurore de la littérature française. S'il était venu après les grands hommes qui ont illustré le siècle de Louis XIV, où il aurait été inconnu, où l'on n'aurait parlé de lui que pour le mépriser, où il aurait corrigé son style. Monsieur Despréaux le loue, mais c'est dans ses premières satires. C'est dans le temps où le goût de Despréaux n'était pas encore formé. Il était jeune et dans l'âge où l'on juge les hommes par la réputation et non par eux-mêmes. D'ailleurs, Despréaux était souvent bien injuste dans ses louanges et dans ses censures. Il louait ce Gray que personne ne lit. Il insultait Quinault que tout le monde sait par cœur. Et il ne dit rien de La Fontaine. Valère, meilleur que Voiture, n'était pas encore parfait. Ses ouvrages galants respirent la grâce, mais la négligence les fait languir et souvent les pensées fausses les défigurent. Les Anglais n'étaient pas encore parvenus de son temps à écrire avec correction. Ses ouvrages sérieux sont pleins d'une vigueur qu'on n'attendrait pas de la mollesse de ses autres pièces. Il a fait un éloge funèbre de Cromwell, qui, avec ses défauts, passe pour un chef-d'œuvre. Pour entendre cet ouvrage, il faut savoir que Cromwell mourut le jour d'une tempête extraordinaire. La pièce commence ainsi. Il n'est plus. C'en est fait. Soumettons-nous au sort. Le ciel a signalé ce jour par des tempêtes, et la voix du tonnerre éclatant sur nos têtes vient d'annoncer sa mort. Par ses derniers soupirs, il ébranle cette île que son bras fit trembler tant de fois, quand dans le cours de ses exploits, il brisait la tête des rois et soumettait un peuple à son joug seul docile. Mère, tu t'en es troublée. Ô mère, tes flots émus semblent dire en grondant au plus lointain rivage que l'effroi de la terre et ton maître n'est plus. Tel au ciel autrefois s'envola Romulus, tel il quitta la terre au milieu des orages, tel d'un peuple guerrier il reçut les hommages. Obéi dans sa vie et dans sa mort adorée, son palais fut un temple, etc. C'est à propos de cet éloge de Cromwell que Valère fit au roi Charles II cette réponse qu'on trouve dans le dictionnaire de Bell. Le roi, pour qui Valère venait, selon l'usage des rois et des poètes, de présenter une pièce farcie de louanges, lui reprocha qu'il avait fait mieux pour Cromwell. Valère répondit « Sire, nous autres poètes, nous réussissons mieux dans les fictions que dans les vérités. » Cette réponse n'était pas si sincère que celle de l'ambassadeur hollandais qui, lorsque le même roi se plaignait que l'on avait moins d'égards pour lui que pour Cromwell, répondit « Ah, sire, ce Cromwell était tout autre chose. » Mon but n'est pas de faire un commentaire sur le caractère de Valère ni de personne. Je ne considère les gens après leur mort que par leurs ouvrages. Tout le reste est pour moi anéanti. Je remarque seulement que Valère, né à la cour, avec 60 000 livres de rente, n'eut jamais ni le sot orgueil, ni la nonchalance d'abandonner son talent. Les comtes de Dorset et de Roscommon, les deux ducs de Buckingham, Milord, Halifax et tant d'autres, n'ont pas cru déroger en devenant de très grands poètes et d'illustres écrivains. Leurs ouvrages leur font plus d'honneur que leur nom. Ils ont cultivé les lettres comme s'ils eussent attendu leur fortune. Ils ont, de plus, rendu les arts respectables aux yeux du peuple, qui, en tout, a besoin d'être mené par les grands, et qui pourtant se règle moins sur eux en Angleterre qu'en aucun lieu du monde. »